Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, chapitre 8, Le suicide ou les intrigues. En sortant de la demeure d'Aelenor, l'ancien chancelier Ruben s'enferma chez lui et envisagea tous les futurs possibles avec une lucidité sans espoir. L'opprobre, l'humiliation publique l'attendaient presque assurément. Ce honteux secret qu'il avait si bien su préserver tout au fond de lui-même ressurgissait maintenant d'une façon qui lui paraissait presque illégitime. N'y avait-il pas prescription pour ce crime? De quel droit cet avorton de 3 ans forçait-il un noble vieillard à répondre? La colère fut le sentiment premier, une rage énorme, dangereuse, inconséquente, qu'il parvint assez vite à canaliser. Puis vint l'angoisse, celle du déshonneur, la plus sourde et la plus difficile de toutes, car il n'était pas question de l'affronter avec courage. Il avait joué avec des vies et la sienne était maintenant sur le tapis, en jeu, sans qu'il pût rien reprocher à personne. Il méritait ce qui lui arrivait maintenant, il le méritait même si complètement que la seule idée de fuir sa responsabilité lui faisait horreur. Alors vint l'envie d'en finir, le suicide comme élégante porte de sortie lorsque la pièce devient trop enfumée. Des images rapides défilèrent dans son esprit. Un bain sanglant, une corde qui se tend, un poignard, une chute du haut de son ancienne terrasse. Non, pas la corde ni le poignard, qui devait être trop douloureux. La chute, peut-être, ou le bain. Il en était là de ses réflexions, lorsque ses sens aiguisés perçurent l'arrivée d'un homme agité, qui se dirigeait vers son palais puis vers sa porte. Quel air, songea-t-il, et il se souvint brusquement du mot rapporté par Zoroastre, « Je reviendrai t'apprendre le sens du mot barbarie ». Un battement de cœur, un frisson et une coulée de sueur glacée plus tard, l'ancien chancelier ouvrait sa porte avec résolution. Il vit apparaître Keller presque aussitôt, qui sembla surpris dans sa fureur de le trouver qu'il attendait. « Mon ami Kettel aussi savait toujours quand j'arrivais », marmonna-t-il entre ses dents. Ruben s'effaça pour le laisser entrer. « Je ne suis pas venu vous faire une visite de courtoisie, espèce d'ordure. Je peux aussi bien rester sur le seuil. »« Comme vous voudrez. » Ruben avait l'esprit qui fonctionnait à une vitesse prodigieuse, ou plutôt, son esprit brassait de multiples choses à la fois. Tout d'abord, Keller ne paraissait pas venir pour le tuer, et le soulagement qu'il en éprouva lui indiqua qu'au fond de son être, il ne voulait pas mourir. Ensuite, l'allusion à Kettel lui rappela cet énergumène entêté, ainsi que son apostasie, et il se demanda s'il pouvait faire usage de ce souvenir. Enfin, il faisait une évaluation rapide et extraordinairement précise de la situation, dont la conclusion pratique était qu'il était à la bonne distance pour contraindre Keller le cas échéant. Celui-ci irradiait un danger imminent, mais ses nombreuses réflexions furent interrompues toutes ensemble par le coup de poing qu'il reçut en plein nez. La douleur fulgura, la pierre frontale s'alluma, la bouche de Ruben s'ouvrit. « Si tu me contrains, je te ferai bannir !» cracha Keller. Ruben se redressa, essuya le sang qui coulait de sa narine gauche et décida de se taire. Keller parut hésiter un moment, mais le coup qu'il avait décoché semblait l'avoir vidé provisoirement de sa colère. « Où est mon fils ? » demanda-t-il simplement, l'air las. L'esprit de Ruben examina presque instantanément les implications de cette question. « Je n'ai rien à voir avec son enlèvement, » dit Ruben. « Tu as traité avec Sornar, tu lui as présenté Joris, tu as commandité tous les meurtres. « Pas les vôtres, » articula Ruben. « Aelenor pense que tu les as bel et bien commandités, et que Sornar nous a épargnés. Moi, je pense que tu as vendu notre enfant, qu'Aelenor n'a été épargnée que par hasard, et que moi, je n'ai jamais été à vos yeux qu'un bas citoyen qui ne valait même pas la peine qu'on l'assassine. Toutes les victimes sont des hauts citoyens, après tout. Que serais-je venu faire dans cette liste ?»« Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de l'enfant, » répéta Ruben. « Je n'ai rien à voir avec le massacre des spiritualistes. » « Mais vous avez tout à voir avec le meurtre des 9 apostats. »« C'était la guerre, » dit Ruben simplement. « N'avez-vous tué personne, maître Keller ?» Keller accusa le coup sans ciller. « J'ai tué des soldats, en face à face. »« Parce que vous êtes un guerrier. »« Je suis un tavernier, pas un guerrier. »« Et moi, je suis un savant, et j'ai fait la guerre avec les moyens que j'ai trouvés. »« Oui, avec maître Sornar. »« J'avais peur pour la cité. » Le gouvernement ne m'a pas écouté lorsque j'ai soulevé le danger que vous représentiez. » Keller secoua la tête. « Je n'ai plus rien à faire ici. mais je suivrai votre procès avec la plus grande attention, ancien chancelier Ruben, et je vous déconseille de vous approcher à moins de 200 pieds de ma femme ou de mon fils. S'il s'avère que vous m'avez menti à propos de mon autre fils, toutefois, je vous ferai justice moi-même. » Quel rustre ! Songea Ruben en le regardant s'éloigner. Puis il laissa ses battements cardiaques ralentir et s'adossa à la muraille. Un procès, donc. Après tout, l'argument qu'il avait donné naturellement à Keller était un argument de poids. C'était la guerre. Il y avait eu des morts des deux côtés. Avec un peu de chance, les natifs de Basseville ne se passionneraient pas pour la mort des apostats, et encore moins pour celle de Stell, de Mevel et d'Emeric. Quant aux natifs de Hauteville, à part les membres très minoritaires de la branche active, ne serait-il pas finalement reconnaissant à Ruben de sa clairvoyance? Il avait vu juste, là où tous les autres s'étaient trompés. Il avait essayé de sauver la cité, et même s'il n'y avait pas réussi, ne ferait-il pas presque figure de héros rétrospectif auprès des plus conservateurs? Le plus délicat serait de justifier l'alliance avec Sornard. Mais Sornard avait disparu, ce qui était fort commode. De deux choses l'une, soit Ruben devait disculper partiellement Sornard et le présenter comme un simple officier de renseignement, nier sa participation au massacre des spiritualistes et nier l'enlèvement, et même l'existence, du deuxième enfant. Soit Ruben devait prouver que Sornard l'avait trahi lui, s'était joué d'eux tous et avait mené sa propre partie. Cela était d'ailleurs plus proche de la vérité. Maintenant, il fallait trouver sa version des faits, sa version définitive, qui rendrait compte de tout, sans toutefois l'incriminer au-delà du nécessaire. Il avait échangé un livre, le livre des livres, dont la valeur était certes inestimable, mais sans danger. Il n'avait pas besoin de dire que Sornard recherchait manifestement un codex particulier. Il n'avait pas non plus besoin de dire qu'il lui avait expressément demandé de tuer les personnes dont le nom était sur cette liste. Il pouvait avoir seulement demandé à Sornard de les neutraliser, et cette brute aurait outrepassé son mandat. Ruben pouvait en avoir beaucoup souffert, d'ailleurs, et pouvait avoir regretté cet arrangement qui avait mal tourné. Il était également parfaitement inutile de dire qu'à Eleanor et Keller, dont la popularité en Albâtre ne s'était jamais démentie, figuraient en tête de la liste et que Sornard l'avait surtout contrarié en refusant de les exécuter. Mieux encore, il pouvait également porter des accusations. À Eleanor était-elle aussi en contact avec Sornard, ou à tout le moins avec son frère, Joris? Il était fort possible que Sornard ait également traité avec elle. Il s'était retiré du jeu et avait laissé la révolution se dérouler sans intervenir, ce qui aurait sûrement infléchi le cours de l'histoire. Au demeurant, cela était réellement mystérieux. Cette question avait roulé mille fois dans son esprit, dans tous les sens, comme un caillou poli par des vagues infatigables, mais aucune réponse ne l'avait jamais satisfait. Il y avait là un mystère des plus inquiétants. Le maître des ombres avait toujours été un personnage secret et solitaire, et avait toujours mené des recherches plus ou moins légales dans le domaine de l'occultisme. L'utilisation simple de l'esprit ne l'avait jamais satisfait. Il en avait d'ailleurs inventé de manière notoire des utilisations inédites. Ruben l'avait déjà vu faire surgir un faisceau lumineux de sa pierre frontale, une sorte de rayon et même une onde. Sa maîtrise de l'esprit était très certainement bien supérieure à tout ce qu'un haut citoyen pouvait imaginer. On murmurait qu'il était capable de tuer par simple contact mental. Il était probable qu'il était venu à bout, seul, de toute la communauté spiritualiste, ce qui représentait un exploit sans exemple. La seule certitude était donc la suivante. Sornard recherchait le pouvoir depuis de nombreuses années et l'avait obtenu. Pas le pouvoir politique, comme la plupart de ses concitoyens, mais un pouvoir spirituel. Le pouvoir politique que les hauts et les bas citoyens agitaient comme un grelot et se déchiraient pour posséder ou reprendre n'était probablement qu'un jouet à ses yeux. Il n'en avait cure, du moment que le pouvoir en place ne le dérangeait pas. C'est pourquoi sans doute il ne s'était pas mêlé de la Révolution. Elle l'arrangeait même sans doute, car elle créait un rideau de fumée autour de ses propres agissements, une diversion somme toute bienvenue et un affaiblissement des seuls partisans qui eussent pu l'entraver, les utilisateurs de l'esprit. Une révolution populaire aboutissant à l'abandon provisoire de l'esprit était même une occasion inespérée pour lui. Alors pourquoi avait-il accepté de coopérer? Sans doute parce que le livre des livres lui offrait la clé de quelque chose, un aboutissement de ses recherches. une information manquante. Mais il avait fait le strict minimum et avait épargné les chefs, dont il voulait, pour une raison obscure, récupérer le nouveau-né. Ruben frémit un instant en imaginant les sinistres applications qu'un homme tel que Sornard pourrait faire d'un bébé. Des histoires couraient sur les sacrifices sanglants de la magie noire, mais honnêtement, il n'y croyait pas. Ce n'était probablement pas pour le tuer que Sornard avait enlevé ce petit, mais peut-être pour l'élever, pour le former d'une manière spéciale dès la naissance. Si le jumeau d'Artus avait hérité des mêmes dons que celui-ci, élevé par Sornard, il pouvait devenir à terme un fléau pour Albâtre. Mais pour quelle raison Sornard voudrait-il créer lui-même un rival qui le surpasserait? Voulait-il, pour une raison ou pour une autre, transmettre son savoir? La question paraissait impossible à trancher. Quant au massacre des spiritualistes, il représentait simplement l'anéantissement de la seule faction capable et désireuse de s'opposer à ses vues. Les spiritualistes l'avaient peut-être percé à jour dans ses recherches, avaient peut-être héroïquement essayé de l'empêcher de continuer. Et ils avaient payé cette belle action de leur vie, songea Ruben, non sans ironie. Et il en irait de même pour tous ceux qui essaieraient d'entraver les projets de Sornard. Aelenor avait été sage d'enterrer son premier-né pendant 3 ans, et c'était pure folie que de vouloir le rechercher aujourd'hui. Si Sornard voulait cet enfant, il valait mieux le considérer comme mort. Ainsi, fallait-il pousser Aelenor et Keller à s'exposer à ce danger, afin de laisser Sornard achever enfin son contrat? Ou bien fallait-il les en dissuader et épouser leur cause? La seule chose qui semblait sûre à Ruben était qu'il ne fallait pas s'opposer au maître des ombres, à aucun prix. Si même Sornard revendiquait un jour le pouvoir politique sur Albâtre, il faudrait se résoudre à lui obéir. Il était trop puissant pour laisser une alternative. Le cerveau échauffé de Ruben ne lui permettait pas de trouver le sommeil, et il décida cette nuit-là d'arpenter la ville, dans le silence des palais blancs éclaboussés de lune. Il fit le vide, progressivement, dans son esprit, et retrouva toute sa contenance. La terrible secousse qui avait eu lieu le laissait finalement debout, et s'il avait pensé à mourir en début de soirée, à l'aube, il se sentait prêt à dévorer la ville. Le temps des nuits paisibles était passé pour longtemps. Celui des intrigues et de l'adrénaline était revenu. Il lui faudrait faire des visites, emporter l'adhésion des tièdes, promettre des récompenses, user de toute sa persuasion. Zoroastre, Daphnae, Sadric étaient les premiers auxquels il pensait. Mais ses partisans seraient beaucoup plus nombreux, car il allait faire de son procès un enjeu politique et, à ce jeu-là, nul n'était plus fort que lui.